Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer sur la lancée de la semaine dernière, où on a parlé des bonnes œuvres et notamment en particulier de l'action sociale, parce que c'était le dimanche des solidarités. Et on va voir si je sais comment utiliser la tapette. Magnifique. On a vu donc la partie solidarité de rendre service et qui est une part des bonnes œuvres que Dieu nous appelle à faire. Mais les bonnes œuvres sont aussi plus grandes et plus larges que simplement l'action sociale. Ça concerne aussi notre travail, nos projets personnels, notre engagement associatif, bref, tout ce que nous pouvons faire dans notre quotidien. Paul, dans l'épître qu'il rédige à Tite, parle des bonnes œuvres comme étant tout ce qui est bien, bon et utile aux hommes. Et on voit en cela que le champ est beaucoup plus large. Et là où on peut avoir une approche des fois des bonnes œuvres en disant que c'est quelque chose qu'on rajoute à ce que l'on fait à tous les jours pour compenser le mal qu'on peut faire, ou pour rajouter du bien à quelque chose que l'on fait tous les jours parce que le travail, on doit le faire, et puis voilà, mais si on pouvait s'en passer, ça serait mieux. L'invitation de la Bible, ce que je veux qu'on puisse voir ce matin, c'est que Dieu ne veut pas qu'on fasse des choses juste en plus de ce que l'on fait déjà, mais Dieu veut transformer ce que l'on fait déjà pour que ça devienne des bonnes œuvres. Et en cela, si on s'arrêtait juste à là en disant « bon, ben, faut qu'on soit de bonnes personnes », qui pensons bien, parlons bien et qui faisons le bien, on dirait pas grand-chose de plus que des philanthropes tels que Sherry Harrison, qui se trouve être une ancienne femme d'affaires, richissime, qui était la femme la plus riche d'Israël, et qui a fondé, qui a arrêté sous son business et qui est devenue philanthrope et qui maintenant devient une influenceuse en disant... Eh ben, elle a écrit un bouquin de Good Deeds, qui est Doing Good, c'est le fait de faire les bonnes œuvres, pour influencer les gens à faire le bien dans leur travail, dans toutes les sphères de leur vie. Elle a créé d'ailleurs la journée de la bonne action, qui en 2022 a rassemblé plus de 4 millions de bénévoles dans plus de 110 pays. Hop. Tout cela pour influencer. Mais on voit que cette démarche humaine est limitée. Elle est limitée parce que finalement, tout le principe repose sur le fait que les personnes font le bien, ou en tout cas trouvent en elles le bien qu'elles peuvent faire pour transformer le monde, pour que le monde aille mieux. Et là où la Bible nous appelle à une autre approche des bonnes œuvres, c'est en nous montrant que finalement, ce n'est pas en nous qu'on va trouver le bien, c'est en Dieu. C'est Dieu qui... va agir, c'est pas nos œuvres, ce sont les œuvres de Dieu qui agit en nous et au travers de nous pour aimer, nous attacher à Dieu, pour faire le bien autour de nous. Et on sait que la finalité, c'est pas nous qui vont réussir à transformer le monde, mais on sait que le monde ira définitivement mieux quand Christ reviendra. Et en cela, on voit que donc la foi, l'amour et l'espérance sont le fondement même de nos bonnes œuvres. On voit que si on enlève la foi, enfin qu'une approche humaine en fait va plutôt garder l'amour, va enlever la foi et du coup va se baser sur ses propres capacités, et une approche humaine va enlever l'espérance qui est certaine en la remplaçant par un espoir que peut-être on arrivera à ce que le monde aille mieux si tout le monde fait un effort. Ce matin, on va regarder du coup avec Paul dans l'épître de Tite en quoi, enfin. Qu'est-ce que ça signifie, la foi, l'amour et l'espérance dans les bonnes œuvres, et comment cela vient transformer chacune de nos actions. Et je vous invite à prendre ensemble Tite 2 à partir du verset 11. Tite 2 à partir du verset 11 jusqu'au chapitre 3, verset 11. Car elle s'est manifestée la grâce de Dieu, source du salut pour tous les humains. Elle nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde, et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse. en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous rédimer de tout mal et de purifier un peuple qui soit son bien propre et qui se passionne pour les belles œuvres. C'est ainsi que tu dois parler, encourager, reprendre, avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. Rappelle-leur d'être soumis aux princes, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant et de faire toujours preuve de douceur envers tous les humains. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la malfaisance et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains se sont manifestés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre compassion, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit-Saint. Il l'a répandu sur nous largement par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je souhaite que tu l'affirmes catégoriquement afin que ceux qui ont placé leur foi en Dieu s'appliquent à exceller dans les belles œuvres. Voilà qui est beau et utile aux humains. Mais évite les débats extravagants, les généalogies, les disputes, les querelles relatives à la loi, car tout cela est inutile et futile. Celui qui cause des dissensions, éloigne-le après un premier et un second avertissement, sachant qu'un tel individu est dévoyé et qu'il pêche et qu'il se condamne lui-même. Amen. S'appuyer sur Dieu. On voit dans ce passage que la foi nous rappelle que les bonnes œuvres ne sont pas nos œuvres à nous, mais sont d'abord l'œuvre de Dieu. On voit dans ce passage que Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre pour nous détacher du mal, pour nous attacher au bien, et s'il le fait, il le fait sans contrepartie. Nous détacher du mal, on voit que c'est la grâce de Dieu qui nous apprend à renier l'impiété. Ce n'est pas par nos propres efforts à être une meilleure personne. C'est Jésus-Christ qui nous sauve de notre incapacité liée au péché, et c'est Jésus qui nous rachète de tout mal. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance. On retrouve là finalement l'image du peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte et dont le travail avait plus de sens et que Dieu est intervenu pour les sortir de cette situation et sortir pour les amener à s'attacher à Dieu, leur donner la capacité de faire le bien. Dieu est à l'œuvre pour donner la capacité de faire du bien. On voit la grâce qui, encore une fois, c'est elle qui nous apprend à vivre d'une manière pondérée, juste et pieuse. Que c'est Jésus qui nous purifie, que c'est Jésus qui a fait de nous un peuple qui fait sa volonté et qu'il nous renouvelle par l'Esprit qu'il a répandu largement sur nous. Et on ne peut pas être dans la dynamique de « aide-toi et le ciel t'aidera » parce que Dieu n'a pas attendu qu'on fasse quelque chose pour agir en nous. Dieu l'a fait par sa compassion, par sa bonté, par son amour. Non parce que nous aurions fait des œuvres de justice. Par cette première approche de la foi, on voit que finalement, dans notre travail, quand le travail perd son sens, quand il est pour nous impossible même de redonner du sens au travail, on sait qu'on peut se tourner vers Dieu pour que là où nous, on se dit c'est impossible parce qu'à cause des contraintes extérieures, à cause des collègues, à cause du planning, à cause des enjeux financiers, à cause du manque de ressources que l'on met à disposition, néanmoins, à cause de toutes ces œuvres extérieures, néanmoins, Dieu peut faire son œuvre à l'intérieur de nous. Il en est capable. On n'a pas besoin d'attendre que le monde change autour de nous pour retrouver du sens dans notre travail, dans les œuvres, dans les engagements que l'on fait. Dieu peut agir à l'intérieur de nous pour que nous puissions retrouver du sens à ce que l'on fait. Pas besoin non plus de se soustraire du monde. je vois dans les actualités souvent la nouvelle génération qui, à juste titre, se pose la question du sens de son travail. Et du coup, on voit pas mal de personnes qui disent, je ne vais pas aller forcément en ingénieur, je vais aller plutôt faire un travail manuel. Et des fois, c'est des motivations qui sont bonnes. Mais je me pose la question de, est-ce qu'on n'est pas des fois en train de se soustraire au monde en se disant, dans tel travail, c'est impossible de trouver du sens, c'est impossible que ça soit véritablement utile. Du coup, je ne vais pas dans cette démarche-là. Et il faut que je m'extraie, il faut que je fasse autre chose. De la même manière, et ça rejoint un peu l'image de la Reine des Neiges pour ceux qui ont des enfants en bas âge. La reine Elsa qui a des pouvoirs magiques, mais du coup, elle ne se sent pas à sa place dans le monde dans lequel elle est. Elle est censée régner, mais elle n'y arrive pas, elle est enfermée. Et elle se dit, ça ira mieux lorsque je sortirai, lorsque j'irai en dehors de mon monde et que j'irai m'isoler à part. Là, au moins, je pourrais être moi-même. Là, au moins, je pourrais exprimer tous mes talents. Et des fois, il y a un peu de cette démarche-là dans notre culture ambiante, en se disant, ça ira mieux quand on fera autre chose, quand je serai à la retraite, quand j'aurai fait ma reconversion professionnelle, quand j'aurai une maison. Et Dieu nous rappelle en disant, mais tout cela, ce n'est pas des réalités. Ce que Dieu veut faire, c'est que changer là où nous sommes actuellement, transformer notre quotidien. Et un exemple, c'est que la première fois où je suis passé à 80% dans mon travail, parce que je devais dégager du temps pour une implantation d'église, je voulais passer à 20%, mais je m'étais dit, je travaille dans le bâtiment, conducteur de travaux, c'est impossible de passer à 80% dans mon travail. C'est juste pas possible de faire le boulot en 80% du temps. Du coup, je suis allé voir mes responsables et j'étais prêt à leur donner ma démission en disant, je sais pas ce que je vais faire après, mais en tout cas, c'est pas compatible. Voilà. Et eux ont été les premiers à me dire, non, en fait, nous, on veut te garder, on peut réfléchir à faire autrement. On voit qu'au lieu de se soustraire finalement du monde, Dieu peut ouvrir un chemin auquel on n'a même pas pensé des fois, pour qu'on puisse être là où il nous a voulu. On a vu que Dieu œuvre par la foi, et on voit que les œuvres qu'il fait en nous, c'est pour qu'elles soient motivées par l'amour. Motivées par l'amour, amour du prochain, mais aussi amour de Dieu. Aimer Dieu, on voit que c'est pour nous attacher à lui. On voit dans le passage précédent, le passage qu'on vient de voir, dans le chapitre 2, Paul répète par trois fois que les bonnes œuvres sont là pour rendre témoignage à Dieu. Il dit que les bonnes œuvres doivent être faites pour que l'on ne calomnie pas la parole de Dieu, chapitre 2, verset 5. Pour que l'adversaire soit confus et n'ait rien de mal à redire de nous, chapitre 2, verset 8. Pour faire honneur à tout l'enseignement de Dieu notre Sauveur, chapitre 2, verset 10. Et on voit en cela que l'objectif des bonnes œuvres est donc de faire connaître Dieu. Tout à l'heure, on a chanté beaucoup sur les œuvres de Dieu, et le psaume 145 qui a été lu nous invite à dire les bonnes œuvres de Dieu. Et finalement, ce que Dieu nous dit, c'est que non seulement il faut les dire, mais on peut les dire aussi par ce que l'on fait. On peut dire les bonnes œuvres de Dieu en étant au travail, en faisant quelque chose de bien et d'utile. Et en cela, on fait le mandat que Dieu nous a donné à la création dans Genèse en disant « Soyez de bons gérants qui me représentent sur terre. Investissez-vous dans tout ce que vous faites, mais faites-le à mon image. Faites-le d'une manière qui parle de moi, qui témoigne de Dieu. » Et pourtant, le péché est passé par là et du coup, des fois tort le travail qui, au lieu de témoigner de Dieu, devient finalement un moyen pour nous de trouver notre propre accomplissement dans le travail, de chercher à être quelqu'un parce que l'on fait quelque chose, de chercher finalement à prendre cette gloire et à se l'appliquer à nous en cherchant plutôt à ce que les autres voient à quel point on est performant ou efficace dans notre travail. Là encore, l'Évangile nous libère. Parce qu'il nous rappelle que notre valeur, elle est indépendante de nos actions. Et il nous rappelle aussi que si on est capable de faire des bonnes choses, des choses utiles, des choses performantes, c'est parce que c'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de nous-mêmes. Et en cela, c'est libérateur, parce qu'on peut être libéré de cette recherche incessante de devoir impressionner les autres. On n'a plus peur finalement de cacher nos échecs. Et on est libre aussi de se réjouir de ce que les autres sont des fois meilleurs que nous, même souvent. Je me rappelle dans un de mes travaux à la mairie de Massy, j'étais impressionné par ma chef, ma N plus 2, et à tel point que je voulais qu'elle reconnaisse la valeur de mon travail. Enfin, je voulais vraiment pas faire de faute devant elle. Enfin, je voulais. Et puis quand je voyais ma N plus 1 qui pouvait peut-être des fois minimiser mon travail, ça bouillait à l'intérieur de moi parce que je me disais, non, c'est pas juste. Il faut que la N plus 2, elle sache vraiment ce que je fais. Et un jour, Dieu m'a repris, il m'a dit, mais c'est qui cette N plus 2 pour toi? C'est Dieu? Est-ce que c'est elle que tu veux impressionner ou... enfin, et du coup, ça m'a repris en me disant, mais je cherche à avoir l'approbation de quelqu'un au lieu de chercher d'avoir l'approbation de Dieu. Et une fois que j'ai compris cela, j'étais libéré de pouvoir faire des erreurs, ou en tout cas de ne pas les cacher, devant ma N plus 2, et libéré de dire, ben, elle peut penser à tort ou à raison ce qu'elle veut de moi. Je sais qu'en tout cas, j'essaye de faire mon travail du mieux possible avec l'aide de Dieu. Aimer Dieu, c'est aussi faire sa volonté. Dans le passage que l'on a lu, on a vu que Jésus a fait de nous un peuple. Il nous a acquis pour qu'on soit son peuple, pour faire sa volonté. Sa volonté, c'est que l'on fasse de belles œuvres. Dans la Bible, il y a le livre des Juges qui nous montre que quand Israël n'avait pas de roi, c'était la catastrophe. Ça se termine avec des abus monumentaux, spirituels, de pouvoir. Ça se termine, les uns s'entretuent, et c'est vraiment catastrophique. Et on voit que le livre des Juges nous montre que pour faire la volonté de Dieu, pour obéir à Dieu, on a besoin d'un roi. Israël avait besoin d'un roi, et nous avons besoin d'un roi. Et ce roi, c'est Jésus, Jésus lui-même qui, dans les évangiles, lorsqu'il vient, lorsqu'il est présenté, il est annoncé comme la venue de Jésus est assimilée à la venue du royaume de Dieu. Et on a besoin de lui pour qu'on s'aligne, nous, sur sa volonté, qu'on s'aligne, nous, sur son enseignement. Un peu comme un chef d'orchestre avec l'orchestre, on ne demande pas à chaque musicien de dire comment ils ont compris le morceau, comment ils ont envie de l'interpréter. Ils peuvent donner leur avis, mais c'est le chef d'orchestre qui a travaillé l'œuvre, c'est le chef d'orchestre qui connaît son orchestre, qui connaît ses forces et ses faiblesses, et c'est lui qui va décider de la manière dont on va jouer le morceau, avec telle intention. Et finalement, l'œuvre est belle, l'œuvre est cohérente, l'œuvre rend quelque chose parce que les musiciens s'alignent sur la volonté du chef d'orchestre. Et c'est à cela qu'on est aussi appelé à faire avec Jésus. À l'heure où il y a l'accomplissement de soi, le développement personnel, qui peuvent être de bons outils s'ils sont utilisés correctement, mais ils peuvent être aussi tordus s'ils deviennent finalement un accomplissement de soi en recherchant à faire notre propre volonté au lieu de la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu nous demande, dans ce passage, il ne nous demande pas simplement de ne pas faire le mal. Il nous demande de ne pas faire le mal, mais de faire le bien que lui a prévu. Des fois, on se dit, bon, ben, mon projet à moi, ça ne fait pas de mal à personne, j'ai le droit de le faire. Dieu m'a donné des dons, tant mieux, ça m'accomplit. Mais est-ce que c'est sa volonté? Ou est-ce qu'on est en train, finalement, de servir une idole en nous, cette idole étant en se disant, si j'ai telle chose, j'irai mieux. Si j'arrive à tel niveau, j'irai mieux. Vraiment, Dieu nous dit, tu n'iras pas mieux avec ces idoles, tu n'as pas besoin de les servir. Tu peux aller mieux là où tu es maintenant. Il peut agir à l'intérieur de nous. Aimer Dieu ne va pas sans aller sans aimer son prochain. Aimer son prochain, dans ce passage-là, il y a beaucoup de descriptions sur le comportement, sur le fait d'être constructif. Mais je voulais quand même ressortir à part le fait de répondre aux besoins. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que ça rejoint davantage l'aspect action sociale qui a été mentionné la semaine dernière. Mais tout de même, Paul, à la fin de son épître, Il nous rappelle qu'il est bon que tout l'aspect de notre vie soit transformé par Dieu et participe à le glorifier. Mais il nous rappelle aussi qu'il y a une réalité où il y a des besoins urgents dans certaines situations qui ont besoin d'être comblés. Et il va dire à Tite, « Aie soin de fournir à Zénas, le spécialiste de la loi, à Apollos, ce dont ils ont besoin pour leur voyage, afin que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à exceller dans les belles œuvres pour subvenir aux nécessités urgentes, afin de ne pas être sans fruit. » Donc ça nous rappelle en disant on ne peut pas se cacher derrière le fait que les belles œuvres sont aussi le travail, tout ça, pour ne pas s'impliquer dans le social, pour ne pas s'impliquer, ne pas être sensible aux besoins urgents de ceux qui sont autour de nous. Aimer son prochain, c'est donc aussi être constructif. On le voit dans le passage où Paul fait une comparaison de caractère en disant, donc il demande à Tite de rappeler aux chrétiens de Crète d'être soumis aux principes et aux autorités. Donc là, on voit la dimension sociétale, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant et de faire toujours preuve de douceur envers tous les humains. On voit l'aspect constructif, on voit l'aspect pacificateur dans les relations. A contrario, il nous rappelle qu'avant, Paul s'inclut dans cette liste, hein, malgré le fait qu'il était quand même quelqu'un de très pieux. Il rappelle qu'avant, on était stupide, rebelle et égaré, et que cela nous emmène aussi à être esclaves de tout désir, de tout plaisir, et que cela engrange encore plus loin le fait de devenir carrément malfaisant, dans l'envie, odieux et en se détestant les uns des autres. Et on voit donc que aimer son prochain, c'est appeler à être constructif. Hop, si je reviens. Voilà. Et dans ce passage-là, on voit toute la valeur de en quoi mon travail peut être utile, en quoi mon engagement associatif peut être utile à la société. Des fois, la bureaucratie, la hiérarchie fait que on est des fois on voit plus quelle est la finalité de pourquoi on travaille. Et ça aide profondément de se dire je suis dans une entreprise, je suis dans une association, je suis dans quelque chose qui est censé être utile pour ça, qui est censé bâtir des bâtiments pour que ça serve à des gens, qui est censé être utile en termes d'éducation, qui est censé être utile parce que ça produit de la nourriture pour les autres, qui est censé être utile parce que ça vient rendre un service. En France, les métiers sont rangés par trois grandes catégories, en France et dans le monde économique, en disant il y a les métiers d'abord de primaire, donc tous ceux qui produisent des éléments à partir de la nature. Il y a tout ce qui est secondaire, donc tout ce qui transforme ces matières premières pour en faire quelque chose, l'industrie, le bâtiment. Et puis, le reste, c'est généralement des services, qu'ils soient marchands ou non marchands. Et de se dire voilà, que mon métier doit soit produire quelque chose, soit être un service, de se le rappeler, même si des fois ça nous paraît loin, parce que dans le concret, on est plutôt là à gérer de la facturation, ou à essayer de faire ce qu'on nous a demandé de faire, mais on n'en voit pas trop l'utilité, ça nous aide finalement de demander à Dieu, de nous dire, mais à quoi je suis censé être utile, ou en tout cas participant à une cause globale, et de participer au bien commun. On voit aussi que ça nous parle donc d'être artisan de paix, et de respecter aussi le cadre, l'autorité. Souvent, on est les premiers à se rendre compte, à pointer du doigt chez les responsables, chez le leader, toutes leurs imperfections. Et pourtant, Dieu utilise des gens imparfaits pour que ça soit constructif. Si on enlève la hiérarchisation, le fait de le fonctionnement, bah, chacun fait ce qu'il veut, ça manque de coordination et ça devient n'importe quoi. Quand je suis arrivé, encore une fois, à la mairie de Massy, je débarquais dans une mairie. Donc une mairie, c'est très éclectique, c'est très large parce qu'il y a beaucoup de métiers différents. Souvent, on dit que l'Église rassemble des gens de tous horizons. Je trouve que la mairie le fait encore plus, honnêtement. Mais du coup, c'est une vraie fourmilière. Et la première fois, ça m'a même impressionné parce que je me suis dit, mais comment ça fonctionne, quoi, et presque paniqué en se disant, mais c'est n'importe quoi. Mais Dieu m'a appris, mais regarde, il y a des choses qui sont faites imparfaitement. Mais néanmoins, il y a des choses qui sont établies. On ne peut pas tout remettre en question. On peut les faire progresser, mais on ne peut pas tout remettre en question. Parce que si tu remets tout en question, ben, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus l'impact. Il y a une désorganisation globale si tu remets tout en question. On n'arrivera plus à bâtir des bâtiments. On n'arrivera plus à maintenir l'éducation. On n'arrivera plus à avoir des investissements sportifs, sociaux. Il y a quelque chose qui est en place, qui est imparfait, mais qui fonctionne. Et Dieu nous invite, en tant que chrétiens, non pas à nourrir la critique vis-à-vis de tout ce qui est imparfait, mais plutôt à encourager la bonne compréhension, de dire bah, il y a quelque chose qui existe, ça le mérite d'exister, et de l'encourager, de participer à l'améliorer, mais néanmoins, ça reste constructif. Et bien sûr, on est appelé par la parole aussi, à pas encourager des médisances, mais aussi à pas simplement se taire pour pas participer, mais aussi à des fois oser parler et puis dire bah, c'est fondé sur quoi ton truc ? Des fois, on fait des réputations à des personnes qui n'ont rien demandé alors que c'est complètement à côté de la plaque. Soyons des ouvriers de paix aussi dans notre travail, dans nos différents investissements. Et pour finir avec l'espérance, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du mythe du colibri. C'est assez à la mode. Pour ceux qui ne connaissent pas, le colibri, donc étant censé être le plus petit oiseau, l'histoire raconte qu'il y a un feu dans une forêt en Amazonie. Alors, je ne sais pas si les colibris sont en Amazonie, vous vérifierez ça sur Internet. On me dit non, mais on va dire que c'est dans une forêt où il y a des colibris, il y a le feu, tous les animaux s'enfuient dans le sens opposé pour sauver leur peau. Et tous les animaux s'enfuient, mais ils voient le colibri qui va à contresens, qui fait des allers-retours avec une goutte d'eau à la fois pour essayer d'éteindre l'incendie. Et les animaux lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais ? Sauve-toi !» Et le colibri qui répond « Oui, mais moi au moins je fais ma part. » Et souvent, on utilise cette illustration pour montrer que face au réchauffement climatique, on a besoin que chacun fasse sa part et qu'on n'attend pas qu'il y ait un changement global pour agir. Ce qui est bien. Mais la morale de cette histoire dit que finalement, tout repose sur nos propres efforts et ça marche que si tout le monde s'implique. Et ça rejoint la compréhension humaine des bonnes œuvres en disant on essaye de faire le bien pour transformer le monde. Et en fait, c'est pesant comme responsabilité. Je connais une personne qui, lorsqu'elle a pris conscience de l'enjeu environnemental, était pétrifiée, enfin, de se dire, mais en fait, il faut changer complètement notre mode de vie. Et en même temps, il allait mal parce qu'il disait, mais tout ne dépend pas que de moi. Ça dépend aussi de l'industrie agroalimentaire, ça dépend de tout un système que je n'arrive pas à changer par moi-même. Et en même temps, je ne peux pas me soustraire de ce système-là et bloquer, finalement. Et c'est là où, finalement, quand l'espoir repose sur nous, ça devient quelque chose de pesant, ça devient quelque chose où on se dit, ben, en plus, c'est pour peut-être rendre meilleur le monde, sans être sûr d'y arriver. L'espérance chrétienne n'est pas comme ça. L'espérance chrétienne est une certitude. L'espérance chrétienne, c'est une assurance que le retour de Jésus sera vraiment quelque chose qui va arriver et que lui va réussir à rétablir le monde correctement. Dieu nous appelle à être en bénédiction dans le monde, mais il ne nous donne pas la responsabilité d'arriver à transformer le monde de telle manière qu'il soit véritablement bon. Ça, c'est son job à lui. Et il le fera. Et donc, l'espérance chrétienne nous décharge de ce poids. Et en même temps, nos bonnes œuvres, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, ben, il va venir, il va transformer le monde. Et pour autant, il nous demande de nous investir dans ce monde. Moi, si on me dit qu'on va changer la Terre à la fin, je dis, bon, bah, ok, j'attends que tu changes la Terre et puis je fais rien. Non, Dieu nous dit, investissez-vous dedans. Pourquoi ? Nos œuvres ne sont pas censées transformer le monde jusqu'à ce qu'il arrive. Nos œuvres sont censées être un témoignage, une annonce, une manifestation, un avant-goût de ce que Dieu va vraiment faire au final. Et en cela, du coup, ça vient satisfaire le sentiment d'accomplissement. Des fois, on se dit, mais à quoi bon s'investir ? Parce que ça ne sera jamais assez, ou on n'en voit jamais le bout. Et il y a le sentiment d'accomplissement qui est incomplet. Mais là, quand on sait qu'au final, Dieu va rétablir toute chose et que ce que l'on fait est comme un petit témoignage de ce que lui va faire plus tard, il y a cette connexion et il y a ce sentiment de « Ah, je serai vraiment satisfait de l'accomplissement à un moment donné. » Et du coup, je peux persévérer dans ce que je fais parce que même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, il y aura quand même un accomplissement final qui est certain. Et on voit du coup que les œuvres que Dieu fait au travers de nous témoignent aujourd'hui de Dieu, mais qu'un jour, il sera pleinement entendu, pleinement vu, connu pour qui il est. Les œuvres qui aujourd'hui sont l'expression de notre obéissance au royaume de Dieu, un jour, le royaume de Dieu sera plein et entier. Et on voit donc que notre travail n'est pas en vain, mais qu'on peut persévérer par rapport à ça. En conclusion, au travers de la foi, de l'amour et de l'espérance, on est invité à se rappeler que nos bonnes œuvres ne sont pas nos bonnes œuvres, sont les œuvres de Dieu. Dieu qui a envie d'agir. On n'est pas censé atteindre un certain niveau suffisamment satisfaisant en disant « j'en ai fait assez ». On est plutôt invité à suivre Dieu qui, lui le premier, a envie de s'investir dans ce monde. Il a envie de venir redonner du sens à tous les aspects de notre vie, notre travail, notre engagement, nos relations. Et on peut faire appel à lui. On peut être dans une approche réaliste en se disant « Ok, je vois mes limites », mais on peut du coup faire appel à lui pour que lui vienne faire son œuvre en nous et au travers de nous, en annonçant et en attendant le retour pleinement de l'espérance du retour de Christ, qui lui va avec certitude résoudre le problème du mal. Et je vais inviter du coup à l'équipe de louanges à nous rejoindre. On voit finalement que les bonnes œuvres ne sont pas quelque chose que Dieu nous demande en disant « faut y arriver », mais c'est plutôt finalement une démarche où on se dit « on a besoin que lui vienne régner en nous, lui vienne faire son œuvre qu'il a prévue ». Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que tu nous as créés dans un monde aussi matériel. Tu nous as mis aussi en relation avec d'autres personnes. Tu nous as placés à un endroit. Et merci parce que tu ne nous demandes pas à nous de rendre tout cela meilleur. Mais toi, tu as envie d'agir en nous. Toi, tu as déjà, par ta bonté, envie de faire du bien au travers de nous, de redonner du sens à ce que l'on fait, Seigneur, pour que cela parle de toi, pour que cela montre que tu es bon, que tu es sage, que tu es créatif dans les arts, que tu es celui qui sait démêler des situations tellement compliquées, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui donnes ces capacités à chacun d'entre nous, Seigneur. Merci aussi pour ta... parce que tu donnes aussi de bonnes choses aussi même à ceux qui ne te connaissent pas, par ta grâce commune, Seigneur. On veut te prier pour que tu nous aides dans cette semaine, mais dans les jours suivants et globalement, Seigneur, à compter sur toi, pour que toi, tu viennes faire ton œuvre en nous, pour que nous puissions être tes témoins là où nous sommes, Seigneur. et que ton règne vienne dans nos vies, Seigneur, et sur cette terre. Amen.